Jouissance. Donc, c'est un mot très vaste, parce que c'est un terme, malgré tout, assez particulier. C'est un terme de Lacan. C'est lui qui a introduit ce terme dans la psychanalyse. Et au fond, pour Lacan, c'est un terme qui désigne, au fond, ce qui se passe d'essentiel dans une cure. C'est presque, au fond, ce qui est l'enjeu principal du traitement. Alors c'est un terme ambigu et complexe parce que Lacan est allé prendre ce terme à la fois chez Hegel, dans la dialectique du maître et de l'esclave. C'est un terme donc qu'il reprend chez Hegel mais qu'il va retourner et qu'il détourne de chez Hegel puisqu'au fond c'est pas le terme en tant que tel. Et c'est un terme qui correspond, qu'on trouve aussi chez Freud, on trouve chez Freud le terme de Genuss. Et c'est aussi un terme qui correspond en quelque sorte, au terme de libido chez Freud. Alors, c'est un terme complexe parce que c'est à la fois un terme qui veut dire qui a une connotation concernant le plaisir, l'agrément, et puis c'est aussi un terme juridique. Hein, et c'est un aspect très important dans la perspective de Lacan. Parce que c'est un terme juridique qui signifie la possession de quelque chose, et en particulier la façon dont on peut jouir, par exemple, de l'usufruit de quelque chose. Hein, on ne peut pas jouir complètement de la chose, mais on jouit du produit ou de l'usufruit de cette chose. Or, quelle est notre première possession dans la perspective qui est celle de Lacan? C'est notre corps. Voilà. La langue est bien faite, on ne dit pas « je suis un corps », on dit « j'ai un corps ». C'est une possession, et d'ailleurs, on voit bien comment à la fois nous possédons notre corps, et parfois c'est notre corps qui nous possède. On voit comment... Voilà. Et c'est pour ça que la formule de Lacan « il n'y a de jouissance que du corps » s'explique de cette façon-là. Donc ça renvoie bien sûr à une notion freudienne très importante, qui est la notion d'un au-delà du principe de plaisir, qui fera dire à Lacan que le plaisir est une barrière à la jouissance. Donc on voit bien que la jouissance, c'est pas le plaisir, c'est pas le plaisir lui-même, même c'est quelque chose qui est au-delà du plaisir et qui peut aller et va même jusqu'à la douleur, hein, jusqu'à la souffrance. Il y a un au-delà, hein, un au-delà du principe de plaisir. C'est cela que Lacan nomme jouissance. Alors, cet au-delà du principe de plaisir, c'est celui qui est lié à la répétition. On peut penser par exemple que les multiples traumas que l'enfant reçoit dans le lien premier avec la mère, c'est-à-dire les plaisirs ressentis, les douleurs articulées à la mère, que ça peut être la faim, les montées de tension interne, puisque dans l'esprit de Lacan, au fond, la jouissance correspond à cette montée de la tension, d'une certaine façon. Toutes ces marques vont s'inscrire pour chaque sujet d'une façon particulière, singulière, et vont orienter sa vie, en particulier dans ce monde de la répétition qui règle la vie de chacun. Hein. Au fond, on passe son temps à répéter et à rechercher les traces suivant lesquelles on va pouvoir retrouver, hein, quelque chose qui a été fondamentalement perdu. Un des exemples que donne Freud et sur lequel s'appuie Lacan, c'est le fameux jeu du Forda, hein, où l'enfant lance une bobine. D'ailleurs, dans la première partie du jeu, il n'y a pas de bobine, mais dans la deuxième partie du jeu, il y a une bobine et qui est attachée à un fil. La première partie du jeu, il n'y a pas l'aller et le retour. Le but du jeu, c'est de maîtriser, dit Freud, Lacan dirait de symboliser, l'absence de la mère, qui elle est une jouissance, est une douleur, la perte d'un objet fondamental, c'est une souffrance. Et l'enfant symbolise, alors, il symbolise par le langage, hein, forte da, et puis par un objet qui est quelconque, la bobine, hein, c'est, au fond c'est un objet quelconque qui est lancé et puis repris, mais sans cet objet quelconque, ce rien du tout, le jeu ne serait pas possible. Elle est nécessaire au jeu, tout comme le langage. Et Freud note d'ailleurs que lorsque la mère revient, le plaisir pris à sa présence n'est plus le même. Quelque chose a été perdu. On voit là-dedans deux choses. D'abord, d'une part, le fait qu'il y a une sorte de paradoxe, parce que Lacan dit d'une part que la jouissance est interdite à celui qui parle. Au fond, la parole interdit la jouissance. Mais interdire, c'est à la fois l'idée de l'interdiction qui porte sur l'inceste, bien sûr, mais en même temps, il y a toujours chez Lacan des jeux de mots ou des équivoques, interdit, on pourrait mettre un trait d'union entre l'inter et le dit, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui circule comme jouissance entre les mots, entre les dits hein, du sujet, et qui au fond, d'une certaine façon, oriente sa vie, la règle, d'une façon variable. C'est même pour ça que Lacan dira que ce fameux aphorisme de Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise en rapport des sujets à travers la sexualité, il dira même une chose, il n'y a pas de rapport sexuel sauf entre les générations. C'est-à-dire précisément à travers ces premières jouissances qui ont marqué le corps de l'enfant, hein, ces premières marques qui ont touché le corps sous forme de quelque chose qui pouvait être entre plaisir et douleur, etc. Alors, certes, la jouissance est interdite, mais on a des lichettes, hein, on a des bribes, des morceaux, on a accès à une jouissance qui est certes limitée, mais possible, et puis il y a au-delà le rêve d'une jouissance illimitée. Et là, on voit, puisque on a beaucoup dit à propos de Lacan de l'importance du langage, mais on réduit ce que dit Lacan sur le langage à l'idée simplement d'un langage comme fonction de symbolisation qui réduit absolument tout, etc., etc. Or justement, Lacan promeut ce terme de jouissance précisément pour rectifier hein, quelque chose qui est une sorte de limite dont on peut se rendre compte dans la direction du traitement analytique. C'est-à-dire qu'une cure menée seulement par le symbolique provoquerait une sorte de tournée en rond. Hein, puisque un signifiant renvoie toujours à un autre signifiant, il y a un principe d'analyse infinie à ce niveau-là. Hein, voilà. Or, par le biais de la jouissance, en introduisant cette notion, en retrouvant au fond alors tout ce qu'on a pu dire, les critiques qui ont été faites à Lacan sur l'absence d'affect, etc., justement la jouissance est une rectification ou une remise en circuit de quelque chose qui n'était d'ailleurs pas oublié chez lui dès le début, si on veut bien le lire, mais qui n'était pas ce sur quoi il avait mis l'accent en premier. Un bon exemple, c'est le langage. Il y a une double valeur de la parole. Il y a d'une part la parole forte, la parole qui symbolise, qui maîtrise, etc. Mais dans la langue elle-même, il y a une jouissance. Hein, que la prosodie, le son des mots, les images acoustiques, etc. Et l'enfant, le nourrisson, reçoit ces mots venant de l'autre, comme il reçoit les sensations corporelles lors des soins du corps, le plaisir ressenti lors de la tétée, etc., etc., les odeurs, enfin tout ce qui va marquer l'enfant. Et ces images acoustiques, cette prosodie, etc., elles sont vécues comme une jouissance, effectivement, pour le sujet, puisqu'il reçoit ça dans un premier temps comme des sons, des séries de sons articulés, mais hors sens. Ça n'a pas de sens pour lui. Et on voit bien la fonction de jouissance que ça a quand on observe, c'est une indication de Lacan, c'est l'allation que les enfants font tout seuls, ou d'une certaine façon, ils reproduisent avec leur bouche les bruits, ces sons qu'ils ont entendus venant de l'autre, qui lui ont été adressés. D'où le fait qu'on est plus sensible à certains mots, à certaines intonations, et c'est ce qu'on retrouve, ce qui reste dans la langue, dans ce premier rapport au langage, aux paroles reçues, qu'on retrouve dans la poésie, qu'on retrouve dans le chant, qu'on retrouve, voilà. C'est-à-dire que la langue ne se réduit pas au langage, c'est-à-dire simplement à la simple articulation des mots. Voilà. Alors, bien évidemment, si dans un premier temps Lacan a pu dire que la jouissance était interdite, il entendait la jouissance comme la jouissance suprême, c'est-à-dire l'inceste, la jouissance de la mer. En même temps, nous avons accès à une des jouissances limitées. Elles sont limitées. Lacan se servait par exemple même de la jouissance de l'orgasme comme modèle, puisque la fameuse période réfractaire qui suit l'orgasme est une marque presque physiologique inscrite comme limitation. Il y a un temps où ça s'arrête. Et donc notre rencontre avec la limitation de jouissance qui est pour nous... Et l'expérience commune du sujet n'empêche pas tout un chacun de rêver à une jouissance illimitée, celle qui serait au-delà des limites mêmes. Et on sait que c'est ce qui peut être recherché dans l'usage des toxiques, des drogues, de certains objets. C'est aussi, au fond, dans le monde d'aujourd'hui, ce à quoi on nous convie, c'est-à-dire retrouver la jouissance perdue, c'est l'autre qui la possède. Si vous achetez telle chose, si vous prenez tel produit, etc., eh bien, cette jouissance perdue initiale, car il y a une jouissance perdue initiale, effectivement, elle serait retrouvable, par exemple, par le biais de la consommation. Alors, c'est ce qui rend les choses complexes si on pense à l'articulation de la jouissance avec le désir, autre grand concept lacanien, là aussi emprunté et détourné, puisque, comme Lacan a pu le dire, c'est pas Lacan avec Hegel, c'est Lacan contre Hegel. C'est le désir, c'est la question du désir qui est orientée par ce que Freud soulignait, à savoir la perte fondamentale de l'objet premier. Pour Freud, l'objet fondamental, l'objet de la première satisfaction, est un objet radicalement perdu. Et ensuite, nous nous engageons dans une série de répétitions pour tenter de retrouver cet objet qui a été perdu. Et à chaque fois que nous trouvons un objet qui possède des traits communs avec l'objet premier, eh bien, c'est marqué par un « c'est pas ça ». Au fond, c'était pas ça, et on est relancé d'objet en objet. Au fond, le désir est orienté par quelque chose qui a une dimension incestueuse, c'est ça. Le fondement du désir, c'est quelque chose d'incestueux. Mais il n'y a aucun objet adéquat véritablement. C'est ce qui permettra à Lacan de dire que le désir est une barrière contre la jouissance. Qu'il est il est même plus qu'une barrière, il est une défense. C'est la différence du plaisir. Il est une défense contre la jouissance. Et quand on se maintient dans le registre du désir, au fond, voilà, on se protège d'une certaine façon d'un certain rapport à la jouissance. Voilà, donc c'est... Or, et c'est là que le langage intervient, c'est que ce que nous avons finalement perdu à travers les défilés de l'Oedipe, à travers notre entrée comme sujet dans le langage, ce que nous avons perdu comme modalité de jouissance, qui est une jouissance radicalement perdue, le sevrage, etc., etc. Et même d'ailleurs, au fond, dès la deuxième tétée, quelque chose de la première tétée a été perdu. Et ce qui est retrouvé n'est jamais tout à fait ce qui a eu lieu la première fois. On en fait d'ailleurs parfois d'une façon tout à fait aplatie ou abrasée dans la vie quotidienne l'expérience. Eh bien, ce qui a été perdu, nous tentons de le retrouver d'une façon insistante. Et les biais par lesquels nous tentons de le retrouver, ce sont ces marques qui ont accompagné les premières jouissances, qui peuvent être des signifiants, des traits particuliers, qui viennent prendre une valeur spécifique pour chaque sujet. Ce qui fait que nous ne sommes pas orientés tous de la même manière, et nous ne nous inscrivons pas tous de la même manière là-dedans. Et au fond, on a une sorte de paradoxe. C'est-à-dire qu'au fond, on quête la retrouvaille d'une jouissance perdue, qui, parce que perdue, est ensuite reprise comme interdite. C'est ça la fonction de l'Oedipe. Du coup, si c'est interdit, ça permet d'envisager la transgression et ça fonde le désir. Mais en réalité, elle est radicalement perdue. Et du coup, nous essayons de la retrouver en suivant des traces qui sont précisément ce qui nous a fait perdre la jouissance. En devenant des sujets du langage, le langage nous fait perdre ce rapport immédiat, jouissif aux choses, etc. Mais une fois que nous sommes devenus des sujets du langage, nous n'avons plus que le langage, c'est-à-dire nous n'avons plus que cette série de marques, de traits, etc., pour essayer de retrouver ce qui a été perdu, précisément par quoi on cherche à le retrouver. Donc il y a une sorte de paradoxe compliqué dans ce rapport à la jouissance. Et puis enfin, il y a quand même une question fondamentale, c'est pour ça que la psychanalyse traite de ça, c'est que il y a dans le symptôme une jouissance que Freud notait. C'est pour ça qu'on ne se débarrasse pas de ces symptômes si facilement. Parce que le symptôme lui-même, c'est une, comme disait Freud, une satisfaction sexuelle substitutive, une jouissance, si on veut, et que nous ne sommes pas prêts à renoncer. Donc c'est pourquoi, la boucle est bouclée, c'est pourquoi la jouissance est un des enjeux fondamentaux de toute cure analytique.